Eh bien, bonsoir à vous tous. Je vois que nous sommes très nombreux encore ce soir au Centre Sèvres, dans trois salles. Ce sont peut-être plus de 500, c'est dire certainement l'actualité du sujet. Donc, bienvenue à cette nouvelle soirée des mardis d'été public du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, soirée qui est organisée en partenariat avec la revue Études, le premier mardi de chaque mois. Et puis, j'adresse aussi mes salutations à tous ceux qui sont avec nous ce soir dans une dizaine de villes, je crois, à peu près. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, s'est imposé à nous avec la plus grande évidence, le Proche-Orient dans la tourmente. Aussi, mon introduction sera courte et j'ajoute, elle sera courte, hélas. Il n'y a pas besoin, en effet, de préciser beaucoup les dimensions du sujet. Chaque jour nous apporte des nouvelles plus horribles, les unes que les autres, plus incompréhensibles, faites de la plus grande violence. Et devant tant de barbarie, nous sommes choqués, nous ne comprenons pas comment cela est possible. Il sera sans doute difficile ce soir d'apporter des réponses définitives et achevées aux questions que nous nous posons. Mais je souhaiterais au moins formuler quelques-unes d'entre elles, cela de manière massive. Que se passe-t-il en Syrie? Où en est ce régime qui apparemment redevient fréquentable pour certains? Pourquoi ce pays attire-t-il autant de combattants? Selon des chiffres récents, 20 000 combattants étrangers en provenance de 90 pays, dont 3 400 occidentaux. Pourquoi le djihad aujourd'hui? Que se passe-t-il en Irak, dans les pays voisins? Quelles sont les racines de Daesh, de l'État islamique, et pourquoi aussi cet embrasement si rapide? Et puis, nous ne faisons pas l'oublier non plus, que dire de la situation des chrétiens, ceux d'Irak en particulier, contraints de fuir bien souvent pour échapper à la mort? Cela fait beaucoup de questions, cela fait une matière grave. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour essayer de mieux comprendre ce qu'il en est. Je crois que nous sommes tous conscients de la complexité des problèmes, de l'enchevêtrement des conflits, de leurs implications internationales. Mais nous sentons le besoin d'être mieux informés, de mettre un peu d'ordre dans toutes nos perceptions pour prendre de la distance, pour être un peu moins démunis devant l'actualité et probablement pour identifier aussi un certain nombre des responsabilités de nos sociétés. Alors, pour nous aider ce soir dans cette réflexion, nous avons la chance d'avoir avec nous deux spécialistes que je suis très heureux d'accueillir, M. Raleb Bencher et M. Antoine Sfer. M. Bencher, vous êtes universitaire de formation scientifique, je crois, mais aussi philosophique, théologique. Vous êtes président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous intervenez régulièrement aussi dans le débat public. Parmi vos publications, je note en 2001 « Alors c'est quoi l'islam ?» En 2002, « L'islam et le judaïsme en dialogue », puis « La laïcité au regard du Coran », et puis avec Antoine Sfey, précisément en 2008, « Lettre ouverte aux islamistes ». Antoine Sfey, vous êtes intervenu déjà à différentes reprises au Centre Sèvres, notamment dans le cadre de ces mardis, et si je me souviens bien, mais je me souviens bien, la dernière fois, c'était dans le cadre d'un mardi en octobre 2012 sur le sujet « Que faut-il craindre au Proche-Orient? Que peut-on encore espérer ?» Le sujet n'a rien perdu de son actualité. Vous êtes politologue, directeur des Cahiers de l'Orient, et votre compétence est également régulièrement sollicitée dans les médias. Parmi les publications de ces toutes dernières années, je m'en tiens à ces toutes dernières années, je citerai la charia, interprétation du Coran ou imposture en 2013, l'islam contre l'islam, l'interminable guerre des chiites et des sunnites en 2012, et puis en 2011, la direction d'un dictionnaire du Moyen-Orient, sans oublier bien entendu la lettre ouverte aux islamistes déjà évoquée en collaboration avec M. Bencher. Je vous remercie déjà très vivement d'avoir accepté l'invitation de parler et de nous éclairer ce soir au Centre Sèvres. Vous allez, selon le déroulement habituel de ces mardis, vous allez intervenir chacun pendant 25 minutes, 25 minutes au maximum, 25 minutes pour que nous puissions avoir le temps de poser des questions. Et là, vous pourrez bien sûr reprendre la parole.
Est-ce que les coups d'État sont permis?
Je vous donne la parole.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et ceux et celles que je ne vois pas dans les autres salles. Je crois que pour comprendre vraiment comment le Proche-Orient en est arrivé là, il faut revenir réellement à notre histoire contemporaine, à l'histoire de notre pays, à l'histoire de la France, qui a joué un grand rôle dans la formation de ces pays du Proche-Orient. Déjà, revenant un peu à certains termes, en France, le Proche-Orient, c'est le Levant, en langage diplomatique. Ce Levant, c'est le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël, Palestine, et bien entendu le delta du Nil. Dans le monde anglo-saxon, le Near East, le Proche-Orient, n'existe pas réellement. Le Moyen-Orient part précisément de la Turquie, en balayant le Proche-Orient, ou le Levant au sens francophone du terme, en remontant sur l'Irak, la péninsule arabique, et va jusqu'en Afghanistan, ne l'oublions pas, en comprenant le Pakistan. Donc, nous ne parlons pas de la même chose. Le Levant, aujourd'hui, est en tourmente, bien entendu, même si le terme nous semble un euphémisme, il y a des raisons pour cela. Et ces raisons, il faut les puiser dans l'histoire contemporaine. Lorsque les deux grandes puissances de l'époque, la France et la Grande-Bretagne, étaient en guerre, guerre que nous commémorons, dont nous commémorons le centenaire aujourd'hui, avant même la fin de la guerre, la fin de la guerre, ils s'étaient attablés pour négocier les restes de l'Empire ottoman, notamment au Proche-Orient. Les Anglais étaient intéressés, bien entendu, par le sous-sol, c'est-à-dire le pétrole. Les Français de la Troisième République étaient intéressés par la séparation de l'Église et de l'État, par la citoyenneté, par la francophonie, par apporter, comme disait Jules Ferry, la civilisation à ces peuplades. Et nous sommes en 1916, l'Angleterre prend l'Irak. Alors, si on veut être un peu puriste, Ira en arabe veut dire les basses terres. Mais s'il ne prenait que les basses terres, Kirkouk et Mossoul, réserves de pétrole importantes, leur échappaient. Donc, qu'à cela ne tienne, on va triturer les frontières naturelles, on va faire de l'Irak jusque dans le Kurdistan irakien actuel. Mésopotamie, ça veut dire le pays entre les deux fleuves. Mais là aussi, Kirkouk et Mossoul sont au-delà du Tigre et de l'Euphrate. Donc, c'est leur échappée. Qu'à cela ne tienne, on fera de la Mésopotamie le pays au-delà des deux fleuves. Et c'est ainsi qu'on va triturer les frontières. Ils ont l'Égypte parce que le canal de Suez était important pour eux. Ils ont également la Palestine parce que, comme on le voit aujourd'hui, il y a du gaz et du pétrole au large de ces côtes anciennement phéniciennes, ensuite de la province syrienne de l'Empire romain et ottoman. Voilà déjà une première chose qui est faite. Les Français ne sont pas en reste. Les Français vont hériter du Liban, de la Syrie et bien entendu de la Cilicie, cette partie méridionale de la Turquie. Et on se retrouve là aussi avec quelque chose de paradoxal. L'armée du Levant qui arrive en 1920 avec le général Gouraud va se retrouver dans cette partie du monde avec une élite formée par les 31 congrégations religieuses francophones que M. Jules Ferry et ses amis, les Pères Combes et autres, ont mis à la porte de France et qui, voulant se rapprocher de la Terre Sainte, s'installent donc en Syrie, au Liban, en Palestine, mais en même temps, ça donne tout à l'enseignement. Donc, on va avoir une sorte de d'élite déjà qui va recevoir cette armée du Levant. Il est vrai qu'à ce moment-là, la citoyenneté n'existe pas. On est sujet ottoman. Et les Français vont se battre pour construire une citoyenneté. Et il faut le dire, ça se passe plutôt bien dans ce Proche-Orient. Les Irakiens se sentent Irakiens, les Libanais se sentent Libanais, les Syriens aussi, même si ça ne va pas très bien avec la France. Vu que, pour mériter leur titre de perfide Albion, l'Angleterre va promettre ce qu'elle a signé avec les Français, va le promettre aux Arabes en même temps. Et ce royaume arabe qu'elle promet de la Mecque à Damas va à l'encontre de ses accords Sykes-Picot de 1916. Et donc il va y avoir une guerre, certainement entre les Français et les Arabes venus de la péninsule arabique. Tiens, la péninsule arabique, là aussi, elle va rentrer dans le jeu. Puisqu'en 1917, nous avons les Américains qui arrivent pour parachever la victoire des Alliés, regardent un peu toute cette région dite génériquement monde arabe et trouvent toutes les places occupées. L'Afrique du Nord est française. Ce qu'on appelle la côte des pirates, c'est-à-dire la rive orientale arabe du golfe Persique, Qatar, Bahreïn, etc., on appelle ça la côte des pirates. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, hier, c'était des pirates de perles. Aujourd'hui, ce sont des pirates financiers. Les choses n'ont pas changé. Mais elle était anglaise. Et en face, du côté iranien, c'était également les Britanniques qui étaient là. Les Russes étaient au nord de l'Iran. Donc, il n'y avait pas de place sauf dans ce désert arabique, où les Américains n'envoient pas de militaires, n'envoient pas de diplomates. Ils envoient des géologues. S'il y a du pétrole, on s'y intéresse. S'il n'y a pas de pétrole, on s'en revient chez soi. Et c'est comme ça qu'ils vont s'installer dès 1936 en Arabie, devenue l'Arabie saoudite, le seul pays qui porte le nom d'une famille quand même, l'Arabie saoudite, et ils vont trouver du pétrole. D'ailleurs, le roi Ibn Saoud le répondra à ce moment-là, rapporté par Benoît Méchain, « Vous auriez mieux fait de me trouver de l'eau. » Et jusqu'à aujourd'hui, c'est leur problème, toujours. Néanmoins, les choses sont claires. Les Occidentaux sont en Orient, et sont en Orient pour un temps certain. Cela se passe bien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle la France va se permettre, alors qu'elle n'a qu'un mandat sur la Syrie, de donner le Sanjak d'Alexandrette au Turc de Kemal Pacha, le laïc, bien entendu, et pour éviter qu'il ne rejoigne les forces allemandes et italiennes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, là aussi, avec un conflit, déjà, entre la Turquie, l'Asie mineure, la Turquie et la Syrie, automatiquement, puisque le Sanjak d'Alexandrette a toujours été syrien appartenant à la Syrie. Cela se passe bien, les Américains s'implantent fortement, et le Proche-Orient connaît non pas la tourmente, mais un tremblement de terre en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Et je crois que nous abordons là le conflit matriciel, conflit qui va entraîner l'humiliation, la frustration de la part des Arabes, parmi les Arabes, vis-à-vis de ce nouvel État qui s'installe, État qui s'installe venant d'Europe centrale, ne l'oublions pas, car le Proche-Orient avait une population juive excessivement importante dans tous les pays dont on vient de parler. Et pourtant, il va y avoir cette implantation d'Israël, une implantation politique, puisque sioniste, n'oublions pas que le parti sioniste lui-même est un parti politique qui prêche le retour à Sion. C'est pour ça que c'est un peu gênant aujourd'hui de voir que lorsqu'on dit qu'on est anti-sioniste, on nous dit qu'on est antisémite. C'est deux choses tout à fait différentes. Je suis, par la force des choses et de la nature, né au Liban, sémite de l'Ouest, que je le veuille ou non. même si ça me plaît ou que ça ne me plaise pas, c'est un fait. Néanmoins, bon, il y a eu les guerres israélo-arabes. Il y a eu cette guerre de Suez que, jusqu'à maintenant, dans nos manuels scolaires, on appelle encore l'expédition de Suez. C'est plus romantique, c'est moins belliciste. Mais je peux vous dire que, même à l'âge de 8 ans, je m'en souviens, c'était une guerre. On nous a demandé de mettre du bleu sur les fenêtres pour éviter les bombardements, etc. Alors que le Liban n'était pas du tout impliqué. Mais c'était une guerre réelle que les Britanniques et les Français vont faire contre Nasser. Le républicain, certes pas très cultivé, qu'on a affublé de communistes, je suis pas sûr qu'il sache... qu'il ait su réellement ce que voulait dire le mot communiste à ce moment-là. Néanmoins, il était nationaliste, c'est certain. Et donc, il a l'outrecuidance de tout simplement nationaliser le canal de Suez, qui était en territoire égyptien. Et donc, on lui fait cette guerre. Et c'est là où tout va basculer. Et c'est là où se trouve réellement, je crois, notre problème aujourd'hui. C'est qu'à la sortie de cette guerre, dans un monde divisé en deux, un monde libre et un monde qui était censé ne pas l'être en tout cas, le monde libre sous la férule des États-Unis va entraîner la France et la Grande-Bretagne dans une alliance stratégique dans les années 57 exactement, avec ceux qui avaient une lecture littéraliste du Coran. Ceux qui avaient une lecture rigoriste du Coran. Je laisserai Raleigh Belcher développer un peu cette école, ou du moins cette branche d'une école sunnite du Coran. Mais il est certain que cette alliance avec l'Arabie saoudite, au moment où dans toute la région, pas seulement au Proche-Orient, mais au Moyen-Orient aussi, s'installait ce qu'on a appelé à ce moment-là, d'un point de vue diplomatique, les ruptures de représentativité, en français normal ça s'appelle les dictatures, et c'était des dictatures militaires, il n'y avait plus qu'un seul endroit où l'expression devenait libre, où l'opposition pouvait s'exprimer, c'était le lieu de culte, c'était la mosquée. Et à partir de là, ces mosquées étaient prises en main par l'Arabie saoudite, non pas par des arguments dogmatiques, ou de réflexion, ou d'interprétation, mais par des arguments sonnants et trébuchants, essentiellement. Et on assiste à partir des années 60, c'est-à-dire à partir où le prince Faisal, qui deviendra le roi Faisal en Arabie, créera le système de la Ligue islamique mondiale, de la Banque islamique mondiale, et bien entendu de l'organisation de la conférence islamique, sorte des Nations Unies, des pays musulmans, on va assister à une lame de fond d'islamisation des sociétés, bien entendu, dans ce Proche-Orient arabe, et pas seulement dans le Proche-Orient, mais dans tout l'espace arabe. Arrêtons-nous un moment, si vous le permettez, sur des définitions. Nous entendons parler d'islamistes, nous entendons parler de salafistes, nous entendons parler de djihadistes. C'est ce que nous voyons à la télé, nous écoutons à la radio et nous lisons dans les journaux. Les mots ont le sens qu'ils portent. Si vous lisez Chateaubriand au XIXe siècle, l'islamisme était équivalent du christianisme et du judaïsme. Ce n'est qu'en 1982 que des chercheurs français comme Bruno Etienne et Gérard Michaud ont réinventé ce concept pour faire en sorte que l'islamisme désigne à la fois les intégristes et les fondamentalistes en islam. L'intégriste est celui qui s'attache à l'intégrité du texte, le fondamentaliste est celui qui transpose cette intégrité textuelle à ses comportements, à ses attitudes. L'islamisme, précisément, regroupe ces deux concepts. C'est celui qui veut réislamiser le champ social, le champ juridique, le champ administratif, mais également le champ politique et économique dans lequel il vit. Il vise, bien entendu, les rouages du pouvoir. On l'a vu en Égypte, avec le président Morsi et son élection à la tête de l'État. Aujourd'hui, les islamistes ont perdu un peu la bataille en Égypte, mais ils sont toujours présents en Tunisie, on le voit, on les voit investir les collectivités territoriales, tandis que les salafistes, eux, ne sont pas intéressés par l'État. Salaf en arabe veut dire le pur, l'originel, le vrai, c'est-à-dire pratiqué par les pieux anciens, autrement dit les compagnons du prophète. Le salafiste, lui, issu de la philosophie de Ibn Taymiyyah, un théologien du XIVe siècle syrien, nous dit la meilleure façon d'être fidèle à la parole du prophète après lequel il n'y a plus rien, est de l'imiter jusqu'à dans son comportement et dans son aspect extérieur. Voilà ce que c'est que le salafisme, rapidement, Ghaleb développera bien plus et bien mieux que moi, ce courant qui aujourd'hui est en train de prendre de plus en plus le terrain partout dans les régions qu'on vient de citer. Le salafisme n'est pas intéressé par l'État, il ne veut que les sociétés. Le prophète a dit avant son décès, « Je suis le sceau des prophètes ». En effet, après lui, il n'y en a plus eu. « Je suis venu parfaire votre religion », sous-entendu, zoroastriens, juifs et chrétiens ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. « Il me plaît que l'islam soit votre religion ». En disant cela, il a fait de l'islam, il a donné à l'islam son caractère universel. Tout être humain sur la planète a vocation à se soumettre à Dieu, et qui est le sens du mot islam. Et à partir de cette définition, certains l'ont fait leur, et à partir de là, ils ont développé en disant qu'il fallait le faire par la force, ce qui n'a jamais été écrit. Il n'y a pas un seul texte qu'il dit qu'il faut le faire par la force, loin de là. Mais pas un seul, je le précise, je vois quelques visages, quelques têtes d'Odelinés à droite et à gauche, relisons les textes, je vous en supplie. Quand il y a un verset qui nous dit « Ne fais pas du juif et du chrétien ton ami, combat-les, et si tu n'arrives pas à les combattre, demande à Dieu, décrète une trêve et demande à Dieu de le faire », il parlait de la bataille qui se déroulait entre Médine et la Mecque. Et il avait été en effet trahi par certaines tribus qui ne voyaient pas très bien comment il aurait pu remporter la victoire contre la Mecque, beaucoup mieux armée et beaucoup plus riche. Et pourtant il l'a fait. Donc il faut revenir à l'étude des textes originels. Néanmoins, par cette phrase-là, il a donné son caractère universel à l'islam, et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui nous voyons tous ces gens-là partir un peu, faire ce qu'on appelle le djihad, alors que dans le Coran, le djihad, c'est l'effort qu'on fait pour être un bon musulman soi-même, c'est-à-dire respecter les 5 piliers que vous connaissez tous, le témoignage, les prières qu'on faisait quand on était à la Mecque en direction de Jérusalem, ne l'oublions pas, le jeûne qui existe dans toutes les religions, le kippour et le carême, le zakat, l'impôt religieux, qui n'est pas la sadaka, qui est la charité au sens chrétien du terme, et enfin le pèlerinage. Vous voyez, voilà ce qu'il faut pour être un bon musulman. À aucun moment on nous dit de nous mettre un pantalon bouffant, hein. À aucun moment on nous dit de nous mettre le voile sur la tête. Revenez à la sourate 33, versets 54 à 57, à 59, pardon. Que les épouses du prophète, les croyantes et les épouses des croyants cachent leurs atours. C'est quoi les atours d'une femme dans le désert arabique par 50 degrés à l'ombre? C'est les cheveux tout en sueur et poisseux? Ou c'est plutôt cette chemise blanche légèrement déboutonnée par le haut qui laisse entrevoir aux yeux des mâles concupiscents le début du paradis? Et d'ailleurs, le verset qui suit est très précis là-dessus. Et qu'elle porte la djellabibihenna, qui est le pluriel du mot djellaba. La djellaba part du cou jusqu'au pied. Revenons au texte à chaque fois. Oui, bien entendu, à un moment donné, il y a un autre verset qui nous dit « Il faut qu'un hijab sépare les croyantes des croyants ». mais je crois que dans nos églises, il y a quelque temps encore, les femmes étaient d'un côté, les autres de l'autre. Moi, j'ai un avantage sur vous, j'ai vécu au Liban et on n'avait pas de lieu de rencontre. Je le dis à chaque fois parce que c'est plus qu'une anecdote. C'est tout simplement qu'on cherchait à créer des lieux de rencontre. J'ai eu la chance, Dieu, à 13, 14 ans, 15 ans, de draguer le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, le dimanche à l'église. C'était le seul endroit où les parents n'étaient pas sur notre dos. Mais ça nous a obligés à savoir ce à quoi croyait l'autre. Ce qui fait qu'à la sortie de la mosquée, de la synagogue, de l'église, l'autre n'était plus un étranger. Aujourd'hui, nous assistons avec Daesh, qui manifestement a été encadré par les anciens officiers généraux de Saddam Hussein, ce qui explique bien entendu la percée foudroyante entre juin et octobre 2014 sur un territoire qui fait aujourd'hui la grandeur de la surface du Royaume-Uni. Eh bien, il faut quand même rappeler que les officiers généraux ont été renvoyés chez eux en 2003 par les Américains, et on leur a dit quoi? On leur a dit tout simplement, on va vous rappeler, et ils ont attendu 11 ans, et les quatre provinces irakiennes sunnites de l'Irak ont été complètement délaissées par le nouveau régime de 2003, c'est-à-dire un régime dominé par la branche chiite, qui était un de ces épisodes de la guerre entre sunnites et chiites qui s'est redéclenché depuis 1992. Pour terminer, nous assistons aujourd'hui à la troisième conquête musulmane. Les deux premières ont été faites par des sachants. On l'a vu durant toute l'histoire, notamment entre le 10e et jusqu'au 17e, 18e siècle. Aujourd'hui, elle est faite par des non-sachants. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème qui se pose à nous. Nous assistons à la fois à des conflits locaux, à des régimes qui bombardent leur propre population, à des États contre d'autres États. Nous assistons à deux Vatican, pardonnez-moi cette comparaison, qui s'affrontent, le Vatican du chiisme en Iran, celui qui a été le Vatican du sunnisme jusqu'à ces derniers temps en Arabie Saoudite. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'intrusion de l'Égypte et le retour de l'Égypte sur la scène arabe qui probablement, durant l'année 2015, va marquer cette région. Et nous le voyons par le président Sisi qui est en train quasiment de tenser les oulémas, les docteurs de la loi récemment, en leur disant « faites votre révolution religieuse ». Mais malheureusement, cette guerre entre Arabie Saoudite et Iran, cette guerre aujourd'hui entre sunnites et chiites, a aussi des prolongements internationaux. On a découvert du pétrole et du gaz en Méditerranée orientale. Cela attire des convoitises. Il ne faut pas oublier le poids économique de la guerre. On le voit bien avec Daesh qui s'enrichit non pas seulement avec les rançons qu'on paye, non pas seulement avec la terreur, mais également avec le pétrole qu'elle se permet de vendre. Et si elle arrive à le vendre, c'est qu'il y a des acheteurs et ce ne sont pas toujours des inconnus. Je vous remercie.
Bravo, c'est parfait. Merci de nous avoir tracé ce cadre historique. Je crois que cette mise en perspective est importante et d'avoir posé déjà un certain nombre de clés de compréhension de la situation. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir sur ces points, mais nous continuons tout de suite avec M. Benchaïr.
Et maintenant, vous m'entendez, voilà. C'est très bien. Alors, je disais des amabilités, donc vous n'avez rien raté. Et je disais effectivement que j'étais très sensible d'être présent ici avec vous. Je suis venu animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Dans la présentation, le président Henri Lot, en tout cas à la fois de la séance et de l'institution a dit nous avons affaire à deux spécialistes. Je ne suis pas sûr que ça soit sous cette étiquette-là, et on dit souvent que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Donc c'est plus le témoin. C'est plus le témoin, le citoyen qui s'adresse à ses concitoyens. Et j'aime à rappeler maintenant depuis quelques jours l'Ecclésiaste, chapitre 3, de 1 à 15, mais je n'irai pas là toute la litanie, mais en moins quelques mots, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour les activités sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour sourire, etc. Eh bien, après la torpeur, après l'effroi, après la sidération, après l'affliction due à ce qui nous a ébranlés, d'abord chez nous, en France, en début d'année civile, mais aussi avec ce que nous avons connu cet été dans cette région du monde, il y a le temps de la condamnation, certes, unanime, la réprobation qui ne souffre aucune tergiversation, la dénonciation, et qui dit dénoncer, dit aussi annoncer, annoncer qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents, et aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise la terreur. Et on ne peut pas et on ne doit pas se prévaloir d'un idéal religieux pour effectivement verser dans le ressentiment et le terrorisme. Votre serviteur faisait partie de ceux qui ont été aussi outrés du fait que certains hiérarques musulmans avaient dit « Oui, mais ceci n'a rien à voir avec l'islam. » Et je trouve ça insupportable. Ce n'est pas acceptable d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue ne serait-ce que du simple factuel. Ça a quelque chose à voir. Et c'est le fils du recteur de la Grande Mosquée de Paris qui vous le dit. C'est vrai que mon père m'a enseigné dans la version standard de la tradition religieuse islamique la bonté, la miséricorde, la mansuétude, la magnanimité, la sollicitude, la prise en compte de l'intérêt d'autrui. Et c'est une constante dans le monothéisme abrahamique, avec un enseignement d'accueil, de générosité et d'ouverture, et de philoxénie. Mais il y a aussi, à côté de cet enseignement, de la polémologie virulente. Il y a aussi une facture martiale de tel ou tel passage, y compris dans les versets coraniques, qui sont belligènes. Et a fortiori quand ils sont extraits hors contexte, et brandis sacraliser la violence. Et ceci, nous devons le dire. Nous devons le dire pour pouvoir en guérir. Et qu'on ne peut pas et on ne doit pas, au XXIe siècle, après en avoir mangé une décade et demie, croire qu'il y a une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. Ceci est inacceptable. Donc il faut le dire, le clamer, le faire savoir. Et ceux qui le disent n'ont pas trouvé suffisamment de tribunes médiatiques pour relayer leurs clameurs, occupées qu'elles sont par la focalisation sur le pervers, le vil, le négatif et le maladif. Donc, j'aimerais bien commencer par ça. Et le temps de l'analyse est arrivé. Et nous avons entendu des analyses au pluriel, des lectures. Chacune d'elles a sa pertinence, mais aucune ne peut épuiser le sujet. Il y a la lecture sociologisante, il y a la lecture psychologique, voire psychiatrique même, il y a la lecture géopolitique, et Antoine nous a donné un très bon exemple, là à l'instant, édifiant, il y a la lecture historiographique, mais il y a aussi la lecture théologique. Et la théologie, je sais où je suis dans cette belle maison, n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Une des meilleures définitions que j'ai pu trouver en dehors de son étymologie. Discourir sur le divin obtenir un logos sur Dieu. Mais en tout cas, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Fides quares intellectum, disaient nos auteurs latins. Une foi toujours en quête d'intelligence. Quand il y a la crétinisation des esprits, quand il y a une religiosité aliénante, quand il y a manipulation, domestication, instrumentalisation, idéologisation du sentiment religieux pour d'autres fins que spirituelles, nous arrivons in terminis à la monstruosité que nous appelons maintenant Daesh et qui n'est rien d'autre qu'un acronyme en langue arabe. Et la première fois une langue sémitique s'apprête à un acronyme. Bon, il y a Hamas, mais ça a du sens. C'est l'excès de zèle, qui est le mouvement de la résistance islamique qui donne Hamas comme acronyme, mais il se trouve que ça a du sens. En revanche, Daesh n'en a pas, et c'est la première fois que nous avons, hélas, ce que j'appelle une monstruosité idéologique, un prétendu État dit islamique, et surtout un califat de la terreur, et qui n'applique en acte, si j'ose dire, avec la cruauté en plus, que les thèses wahhabites des régimes qui bombardent, qui participent à la coalition. C'est pour vous dire les incohérences auxquelles nous assistons. Et donc, à mon avis, et si je devais rester quelques instants dans la lecture théologique, il est temps, en contexte islamique au pluriel, parce que j'ai appris à me méfier du vocable islam, mot valise dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Et on ne sait même pas à quoi il renvoie. Il ne veut même pas dire soumission. Et en aucun cas et d'aucune manière. Et c'est même une ineptie que de croire que le vocable islam veut dire soumission. Parce que la racine trilitaire SLM renvoie à la paix et au salut. Elle ne renvoie en aucun cas à la soumission. Et d'ailleurs, la fiction littéraire d'un de nos compatriote romancier, qui a été traduite récemment en langue arabe, elle n'a jamais été traduite par islam. Tiens, c'est curieux, islam ça va dans un sens comme soumission, mais soumission ça ne va pas dans l'autre sens en islam. Il n'y a pas de stricte synonymie entre islam et soumission. D'ailleurs, l'œuvre de Houellebecq a été traduite par Khodoa, ce qui est d'ailleurs le sens même de soumission. Je voulais simplement souligner ça, parce que j'ai été interpellé par une agrégée de philosophie qui me disait, ah oui, mais... Le vocable même de l'islam veut dire soumission, et je lui dis donc c'est inepte que de continuer à le croire. Et comme il n'y a pas de stricte synonymie, eh bien c'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix A. C'est un abandon paisible et spontané A. C'est une pacification. C'est une entrée dans la paix. Le I arabe indique une entrée dans, in medias res. Et si nous sommes arrivés à ces situations aussi, c'est parce qu'il y a eu démission de l'esprit, abdication de la raison, défaite de la pensée et abrasement de la réflexion. Et donc il est temps de mettre un peu d'ordre dans le fatras idéal de ce à quoi nous assistons maintenant. Et alors, il est temps de sortir de la raison religieuse, de la pensée magique, des systèmes superstitieux qui ont fragilisé des esprits, culpabiliser des consciences, infantiliser des êtres, pour renouer avec un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, oblitéré, effacé des mémoires, totalement occulté, insoupçonné. Et alors quand je dis qu'il faut renouer, ce n'est pas pour le réactualiser tel quel, c'est pour dire que ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire pourra l'être. Et il se trouve que c'est vrai que j'ai dit qu'il y a plusieurs lectures et aucune d'elles seule n'épuise le sujet. Elles peuvent avoir partiellement leur pertinence. Donc l'idéal serait d'avoir une vision synoptique, ou panoptique, ou panoramique de ce sujet complexe. Avec cette idée de savoir séparer les paramètres, distinguer les registres, discerner de ce qui se passe dans la lucidité, la froideur d'esprit, la hauteur de vue, l'intelligence. J'en appelle à l'intelligence, et l'intelligence hybride du cœur et de l'esprit. Et il se trouve donc que si je devais avoir cette vision du monde, et surtout dans cette région-là, qui a produit cette monstruosité, eh bien, après un apogée civilisationnel, dont on n'arrive pas véritablement à savoir quand est-ce qu'il eut lieu. Alors, pour faire simple, on va dire qu'il aurait ou qu'il avait culminé avec Soléman le Magnifique. Le Magnifique comme épithète ici, mais là-bas le bâtisseur et surtout le législateur. Ce qui sous-entend que sous Soléman le Magnifique, il n'y avait pas de charia, au sens drastique que nous comprenons maintenant, puisqu'il y avait un droit de type séculier, comme une production humaine et comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Donc la compréhension étriquée et drastique d'une religion, enfin d'une loi religieuse n'a commencé à être aussi étriquée qu'à la fin du XIXe siècle. Et voilà que des partis dits islamistes vont s'emparer du sujet pour gouverner selon le désir de Dieu, qu'ils sont seuls à pénétrer et à connaître. Et donc ça sent aussi la manipulation éhontée. Donc après cet apogée civilisationnel, allez, après la mort de Soléman le Magnifique, pour faire simple, parce qu'on peut avoir d'autres repères, et puis il n'y a aucune raison de focaliser sur l'Empire ottoman et d'oublier l'Empire safavide, ou d'oublier l'Empire moghol. Ben, les trois empires coexistaient aussi à cette période-là et à cette époque, encore une fois, dans cette région du monde. Eh bien, après sa mort, 5 ans plus tard, il va y avoir la bataille de Lépante qui va mettre fin à la thalassocratie ottomane, le pouvoir sur les mers de la flotte ottomane. Et d'aucuns disent qu'il y a des raisons intrinsèques, des facteurs endogènes, un faisceau convergent de facteurs qui vont concourir à la décadence, au déclin, à la régression que je qualifierais de tragique au sens grec du terme, à la colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, à une profonde léthargie et à un réveil post-colonial extrêmement douloureux. Et il se trouve aussi qu'à ces facteurs endogènes, il y avait des raisons extrinsèques qui sont venues les alimenter et les aggraver. Antoine en a donné une série. Je la reprends uniquement par mots comme ça. Moi, je les appellerais simplement les 7 piliers de la sagesse, Laurence d'Arabie, Sykes Picot, MacMahon, Allenby, Balfour, traité de Lausanne, traité de Berlin, agression de Suez, guerre éhontée sur un mensonge éhonté en dehors de toute légalité internationale, résolution de l'ONU portant 3 numéros qui dorment dans les tiroirs, 149, 181, 197, 242, 338, 425, 429. On ne parle jamais de leur application. On ratiocine. Ont-elles été décrétées en Assemblée générale ou en Conseil de sécurité? Et des résolutions de l'ONU portant 4 chiffres sont appliquées dans un déluge de feu et de fer. Et le désarroi total s'abat sur une population depuis plus d'un siècle. Et comme je fais mienne la parole de François Mauriac, ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut, donc je ne vais pas pleurnicher sur les raisons extrinsèques. Elles existent, elles sont là. De Gaulle disait « je vais à l'Orient compliqué avec des idées simples ». Ben, j'essaie d'avoir quelques idées simples. Mais la réalité, c'est qu'il faut voir le sursaut de l'intérieur. Je disais à l'instant qu'il faut sortir de la raison religieuse, donc je ne vais pas me mettre à brandir des versets coraniques sortis hors contexte. Je ne peux pas dénier cette méthode aux fondamentalistes, je fais la même chose, ce qui va la corroborer ipso facto. Et du point de vue purement épistémologique, c'est une ânerie, pardonnez-moi. Et donc par abus méthodologique, je le ferai, donc je suis un âne. Et alors, il y a ce passage qui dit « aucune communauté, aucun groupe humain, on peut même dire aucune nation, aucun peuple ne change si pris individuellement les membres de la communauté, du groupe ou du peuple ou de la nation n'entreprend pas un travail d'introspection, la fameuse métanoïa des Grecs. Et donc, ce travail est à mener. Il se trouve, je finirai peut-être avec ça, que on est arrivé à cette situation parce qu'il n'y avait pas de légitimité démocratique des gouvernements en place. Aucune. Aucune légitimité démocratique à aucun gouvernement sur place. Et il était facile, là aussi, de manipuler, de domestiquer le fait religieux, de l'idéologiser même. Quelques observateurs nous ont fait savoir que, bon ben très bien, moi-même j'ai parlé à l'instant d'un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oublié, occulté, effacé des mémoires, oblitéré. Oui, ben oui, mais oui, il se trouve aussi que ces contextes islamiques, je ne dirais jamais islam ou très peu, le vocable mot valise a une charge fantasmagorique anxiogène de nos jours. Ça couvre une gamme qui va depuis les logorées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden. Et puis, ça pourrait éventuellement aller chez les connaisseurs à ce qui est intériorisé dans les cœurs. La mystique islamique, le soufisme, le sentiment d'amour, un amour oblatif, transnaturel, puissant, incandescent, théologal, pour l'ensemble des créatures de Dieu, pour ceux qui croient. Et donc, les contextes islamiques n'ont pas connu, nous dit-on, à juste raison, la séquence moment Descartes, moment Freud. Et il se trouve que cette séquence, je le dis uniquement comme ça, sans étalage d'une vaine érudition, il y a eu trois grands noms aussi. John Locke, Pierre Bayle, Cesare Beccaria. Et pourquoi Beccaria? Parce qu'il est temps aussi qu'en contexte islamique, on déjuridicise la révélation. La déjuridicisation n'est pas un néologisme, c'est une manière de ne plus arrimer la production du droit à la norme religieuse. Et combien même voudrait-on le faire, elle ne dira rien sur Internet, elle ne dira rien sur le cyberespace, elle ne dira rien sur l'interaction des blogosphères, elle ne dira rien sur le droit maritime, elle ne dira rien sur les arsenaux nucléaires, elle ne dira rien sur les assurances, elle dira toujours quelque chose sur le statut personnel, dans une vision étriquée qui minore la femme, ou encore la dévolution successorale. Bon, voilà, on est dans un domaine très 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 restreint. Et donc cette volonté de libérer la production du droit de la révélation est déjà le début de l'émancipation. Alors, c'est toujours facile de dire « oui, mais l'extrémisme, c'est le culte sans la culture, et le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance. Bon. » C'est toujours facile. Il dit, c'est toujours facile aussi de tenir un discours imprécatoire contre les criminels fous furieux qui avilissent, pervertissent tout. Mais il y a aussi une présentation programmatique pour sortir de l'ornière. Et je fais mienne ce triptyque en trois vers. Transgresser, déplacer, dépasser. Dans le sillage des maîtres du soupçon, que furent Marx, Nietzsche et Freud, il y a lieu d'avoir une pensée subversive en contexte islamique. Donc beaucoup d'audace, beaucoup de courage, une volonté, même pour certains, une investigation dévastatrice de ce qui a été obéré par une compréhension du sacré obèse, c'est-à-dire qui ne cesse de grossir et d'étouffer des libertés. La criminalisation de l'apostasie est en soi criminelle. Et il y a un scotum, je parle sous l'autorité des ophtalmologistes ici présents, un scotum est un point aveugle. C'est un point aveugle dans la pensée islamique de nos jours quant à cette affaire de liberté que rien ne fonde du point de vue scripturaire. Et Antoine, à juste raison, disait que bon, il ne s'agit pas d'aller oxyre les gens en somme suite à un délit d'opinion. Ce sont toujours des constructions humaines, se fondant effectivement sur tel ou tel passage dont j'étais le premier à dire qu'il est de facture martiale et qu'il est belligène. Et dont on peut même faire l'arithmétique. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Mais quand j'ai entendu un de nos relayeurs d'opinion, qui sévit sur beaucoup de plateaux de télévision, dire, vous savez, le tiers du Coran est un appel à la violence. Dans l'absolu, il a raison. Il n'y aurait eu qu'un seul verset coranique qui appela à la violence. Ça aurait été problématique pour un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Je m'étais dit, bon, allez, puisqu'il dit du tiers, j'ai appris qu'il y a 6236 versets coraniques. Ben, le tiers, un petit calcul, ça me fait 2000. Ben alors, j'ai commencé à compulser. Je sais que c'est crétinisant comme procédé, mais il fallait bien le faire. Ben non, il n'y en avait pas le tiers. Vous voulez savoir? Bien, 70. Je dis qu'il y aurait eu un seul et il aurait posé problème. Il y en a eu 70. 40 qui appellent à l'effort, à accomplir l'effort dans la voie de Dieu. C'est l'étymologie même du djihad.
Exact.
Bon. 25 qui appellent à la, aux frictions, aux bagarres, aux conflits, aux combats, aux tueries même. Et 5 qui consistent à galvaniser les foules pour aller combattre dans la voie de Dieu. On peut les lire in extenso, hein. La question n'est pas de cacher des choses. Et donc ça ne nous fait même pas le 1/60 du corpus. Encore une fois, je dis que cette approche n'est pas intelligente. Ce n'est pas l'approche quantitative ou arithmétique qui nous sortira de l'ornière. Donc il nous faut effectivement transgresser tout cela, transgresser des tabous, pour déplacer l'étude du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens. C'est-à-dire arrêter avec l'investissement colossal en énergie, en travail, en fatigue, en réflexion, en étude cérébrale pour asseoir la croyance alors qu'il valait mieux problématiser ces questions pour l'objectivité de la connaissance. Et on ne peut y arriver qu'avec ce déplacement opéré, avec le concours de batteries de disciplines que sont la sémiotique, la médiologie, l'herméneutique, l'exégèse, l'historiographie, la philologie, la grammaire. Tout cela doit concourir pour la compréhension non seulement du texte, qu'il faut savoir relativiser à son contexte et jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, mais aussi pour déconstruire tout ce patrimoine qui n'est in fine qu'une construction humaine faite par des acteurs sociaux à un moment donné de l'histoire. Et puis dépasser tout cela pour sortir de systèmes juridiques dont les fondements théologiques sont de plus en plus ébranlés et libérer la production du droit, comme je l'ai dit, de son enracinement dans une compréhension étriquée de la révélation. J'arrête là parce qu'il faut être discipliné, j'ai bien peur d'avoir... Oh non, c'est 25 minutes,
exactement.
Tout juste. Voilà, et la discipline...
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Benchaïk, pour cette analyse, pour ce témoignage aussi fort, ainsi que vous l'avez annoncé. Je crois qu'il était utile de nous redonner ce fond de l'islam, fond sur l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui et que nous traitons. Voilà, il était important de prendre cette distance. Alors, je vais donner la parole à la salle. Vous pouvez préparer des questions, déjà les indiquer. Deux micros vont circuler ici à Paris dans l'auditorium de part et d'autre. Je crois que nous allons entendre aussi une question de Bordeaux. Mais auparavant, Monsieur Sfeir, quelques minutes.
Oui, je voulais juste obéir à Raleigh Bencher et transgresser les tabous. Je crois qu'il est temps de dire que le Coran, en récitation littéralement, a été écrit 20 ans après la mort du prophète. Et je crois que cette écriture tardive explique beaucoup de choses. La première partie du Coran, là, ce qu'on appelle la partie mécoise, celle qui, où on a un Coran formidable traduit par Régis Blachère qui remet quasiment chaque verset dans son contexte à la fois sociologique et chronologique, montre à quel point cette première partie porte en elle, ne serait-ce que d'un point de vue stylistique, un souffle particulier et qui s'articule essentiellement autour des relations de l'homme avec son créateur. Tandis que la seconde partie, elle, qui va s'articuler autour des relations de l'homme avec les autres hommes, à Médine, la première cité islamique érigée, là, il a fallu édicter des règles tout simplement de droit, des règles d'héritage, des règles de vie quotidienne, des règles sociales, judiciaires, etc., etc. Et nous ne sommes plus, je prends le risque de le dire, même si c'est une, pour certains un blasphème, nous ne sommes plus dans la révélation. Je suis persuadé que lorsque le troisième calife Osman a fait écrire le Coran et qu'il a détruit concomitamment toutes les versions qui existaient auparavant du Coran, eh bien, il savait ce qu'il faisait. Il était en train d'ériger un manifeste de gouvernance avant même d'être fidèle à la révélation. Je crois profondément, j'ai l'intime conviction, que le Coran s'arrête en 619 ou en 622, mais surtout en 619, date à laquelle précisément le prophète va connaître 3 ans d'errance dans le désert pour trouver un endroit où se réfugier, et que lorsqu'il va se rendre à Yathrib, devenu Médine, à Tel-Nabi, la ville du prophète, contractaire Médine, là il va bâtir une cité islamique qui ressemble à toutes les autres cités terrestres. C'est là où, malheureusement, on a un islam présenté par certains comme englobant, à la fois spirituel, mais également totalement temporel. Pardon d'avoir suivi ta leçon très vite de transgresser les tabous.
Voilà. Vous pouvez vous manifester sans perdre de temps. Je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Oui, apparemment.
Monsieur Sfer, tout à l'heure, à la fin de la première partie de votre exposé, vous avez dit que l'argent qui nourrit Daesh vient de la vente du pétrole.
Pas seulement.
À qui? Qui achète?
Toutes les compagnies pétrolières.
Alors, nous recueillons plusieurs questions, hein, d'abord.
Ah, d'accord.
Voilà, nous recueillons plusieurs questions. Oui, oui, bien sûr.
Une question pour M. Bencher. Quelle est et quelle peut être l'influence des penseurs musulmans modernes que vous connaissez, et il y en a un certain nombre? Il y a eu pas mal de livres depuis 20 ans qui ont été publiés, tant par des Marocains que par des Tunisiens, voire des Égyptiens. Je pense, en vous écoutant, je pensais au livre d'Abou Zeid sur le discours critique du Coran. Donc, ces livres ont été publiés déjà en français. Alors, est-ce qu'il y en a en arabe? Je n'en sais rien. Mais ce sont des penseurs musulmans modernes qui ont dit, écrit tout ce que vous venez de nous dire remarquablement.
Voilà, peut-être une troisième question. Normalement, Bordeaux nous envoie une question. Il y a la priorité.
Voilà, merci. Où la salle et l'église est pleine à Bordeaux.
200 personnes, donc.
Voilà. Quelle est votre opinion, monsieur Sfer, concernant la publication en 2006 d'une carte du Moyen-Orient qui est en train de se réaliser finalement sous nos yeux avec les recompositions actuelles. Une autre question concernera le problème des populations non musulmanes dans ces territoires qui ont survécu sous les califats pendant des siècles et qu'on cherche à faire partir. Comment expliquer cette gêne qu'elle semble apporter actuellement puisqu'on veut les chasser? Et enfin, une troisième question, si c'est possible. Pourquoi la France et l'Europe ne peuvent-elles appeler à une conférence internationale pour trouver une solution pour arrêter Daesh?
Voilà.
On va peut-être répondre.
Oui.
Un premier
question de l'infrastructure politique, notamment.
Toutes les compagnies pétrolières, tous les traders, comme on dit maintenant, des plateformes pétrolières achètent du pétrole là où il y en a. Aussi bien aux dictateurs anglais, africains, et bien entendu, quand Daesh veut vendre son pétrole à un prix très attractif sur le plan financier, économique, ils n'hésitent pas, ils achètent. Bien entendu, à converser d'ailleurs par les Européens, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça, c'est un premier point. Juste, mais je laisserai Raleigh surtout répondre à cette question. Quant aux penseurs musulmans, cela fait 12 ans que j'essaye de faire traduire un livre qui s'appelle « Le livre et le Coran »,« Al-Kitab ou Al-Qur'an », écrit par un professeur de l'université de Damas, Mohamed Shahrour, qui est une lecture moderniste du Coran. C'est vrai que c'est un pavé, mais aucun éditeur n'est prêt à l'éditer. Sachant très bien, et ils ont raison d'un point de vue économique, qu'ils n'en vendront que 500. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais je trouve que c'est dommage. Il existe en arabe, il n'existe pas en français. Quant à la carte de Peters...
Peut-être qu'avant de n'arriver à la carte sur les penseurs musulmans, vous souhaitez... Puis on prendra l'autre question après.
Moi, j'obéis. Et donc, je répondrai. J'ai entendu deux choses dans la question de monsieur. Les penseurs musulmans modernes, et qu'est-ce que c'est qu'être moderne étymologiquement? C'est suivre son mode, se hisser aux exigences de son temps et surtout ne pas suivre la mode au féminin parce qu'on lui courra toujours après. Et puis j'ai entendu l'adverbe remarquablement ou admirablement, ça m'avait touché, mais la question n'est pas là. Alors, s'il s'agit de penseurs musulmans modernes, c'est vrai qu'ils existent. C'est vrai que peut-être qu'ils ne sont pas nombreux eu égard à l'immensité de la tâche. Or, la tâche de l'intellectuel... La vocation, la mission doit être d'agir sur la pensée. J'aime à rappeler, j'allais dire deux exemples, mais avec votre permission, peut-être trois. Ça vous donne comment les choses ont connu cette régression tragique. Je cite deux exemples dans l'histoire. Les trois sont dans l'histoire, mais on vient... Al-Farabi, l'Alfarabus des Latins, Averroès, et puis un que je nommerai pas, mais vous allez deviner de qui il s'agit. L'Alfarabus des Latins est mort en 950. Et dans sa Cité vertueuse, le titre global c'est les avis ou les opinions des habitants de la cité idéale, pour lui, la conquête du bonheur et la quête du salut peuvent et doivent se faire sans le recours ni explicite ni implicite à la révélation. Il disait cela au Xe siècle à Damas, il est mort de sa belle mort. Enfin, certains historiens disent qu'il était tué par des brigands qui ont voulu lui prendre sa bourse, alors qu'il n'y avait rien dedans puisqu'il était plutôt modeste dans sa vie. Et Averroès qui disait dans le traité décisif, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la démonstration philosophique. C'était une audace pour l'époque, une hardiesse intellectuelle.
Bien entendu.
Et il se trouve que bien plus tard, on a deux contemporains, à 19 ans près, un qui est né en 1703, mort en 1792, et son contemporain est né en 1724, mort en 1804. Le premier n'avait pas trouvé mieux que de nous produire le livre sur les grands péchés, le livre sur les ablutions, le livre sur la prière et comment aller à la mosquée. Certes, il y avait un traité intéressant sur le monothéisme, et son contemporain nous avait produit la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Le premier aurait pu être oublié, et ses idées allaient dans le désert de la péninsule arabique. Et il se trouve, et là c'est un malheureux concours de circonstances, qu'il y avait une jonction faite avec les thèses de la contre-réforme des frères musulmans dès 1928, traumatisés qu'ils fussent par, soi-disant, l'abolition du califat, alors que d'autres s'étaient réjouis, s'étaient félicités, et ils avaient même regretté que ce fût aussi tardif. Et après, l'argent des pétromonarchies, etc., pour asseoir des légitimités douteuses, voire inexistantes, afin de continuer à gouverner en toute illégitimité. Voilà. Alors, nos penseurs maintenant, à eux de se faire entendre, à eux de se faire valoir, à eux de chercher les tribunes médiatiques qui, certes, nous font passer ad nauseam en boucle les histoires d'un petit margoulin de Nantes avec ses quatre concubines, mais ne nous disent pas un mot sur le décès de Mohamed Harkoun, qui va enseigner au séminaire Gifford, les Gifford Lectures à Edinburgh. Privilège donné à quatre Français, il y en a un cinquième maintenant, Henri Bergson, Gabriel Marcel, Raymond Aron, Mohamed Harkoun. Voilà les intellectuels musulmans, mais dont on n'entend pas parler ou très peu. Quand je dis ça, c'est, il leur incombe de se faire entendre. Bon, on a les Charfi en Tunisie, on a Abdul Filali Ansari au Maroc, on a Abdul Karim Soroche, on a Farid Essak, le Sud-Africain. Eh bien, il faut qu'ils fassent école, et il n'y a aucune raison que le discours des fondamentalistes puisse prendre, et un contre-discours, si j'ose dire, alors que ça devrait être l'inverse, de cela ne prenne pas.
Bon. Voilà, merci. La carte de 2006, vous nous rappelez
oui,
ce qu'elle est?
Oui, alors, c'est 2006 ou 2008, madame, carte de Peters. C'est une carte qui a été, qui est issue du centre de réflexion, du centre de recherche du département d'État américain et du département de la Défense, qui a été élaborée à Fort Rodrick. C'est là où se retrouve la synthèse, qui est en fait redessiner le Moyen-Orient. Donc en y incluant le Pakistan, l'Afghanistan, etc. Et malheureusement, vous avez raison de le souligner, nous assistons à la mise en place de cette carte-là, c'est-à-dire l'agrandissement du Kurdistan, la création d'un Baloutchistan, au sud du Pakistan, la récupération par l'Iran de la partie de Herat, la ville de Herat, qui est une ville persane, en tout cas en Afghanistan. Nous allons voir, nous devrions voir également, nous aurions dû voir l'éclatement de la Syrie. Là, pour le moment, le grain de sable a un peu enrayé la machine. À ce moment-là, on aurait eu, selon cette carte-là, tout l'État à la 8, c'est-à-dire la surface maritime de la Syrie qui aurait rejoint le Liban, qui aurait été agrandi, donc fait de minorités également, on aurait vu également le démantèlement de l'Arabie saoudite entre un État sacré islamique qui regroupait Médine et la Mecque et un État chiite arabe en Irak qui lui récupérerait la langue sur la mer, sur le golfe Persique, pétrolière de l'Arabie Saoudite et la langue, une partie de la langue pétrolière de l'Iran sur le golfe Persique, par lequel, dois-je vous rappeler, 17% du pétrole mondial passe, quand même, et 65% de notre approvisionnement énergétique à nous occidentaux, y compris le Japon. Donc, tout cela est en train de se faire, mais il ne se fait pas très vite. Il est certain que l'entrée des Américains en Irak, ayant tué 647 000 Irakiens quand même à l'espace de 3 ans, a complètement bouleversé la donne et va dans le sens de ces cartes-là. Quant à votre question, pourquoi la France et l'Europe en général, et l'Occident en particulier, ne n'organisent pas une... On nous a appris en première année de droit à nous poser toujours la question à qui profite le crime. Eh bien, quand on regarde une carte, on voit très bien à qui profite le crime. À ceux qui ont intérêt à avoir non pas des blocs, mais des pays éclatés. À ceux qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait plus de citoyenneté laïque, en quelque sorte, mais plutôt de citoyenneté communautaire. Que les chrétiens votent pour les chrétiens, que les juifs votent pour les juifs, que les chiites votent pour les chiites, les sunnites pour les sunnites, et tout le monde sera heureux comme ça. Alors c'est le contraire de nos rêves d'adolescents de voir émerger une laïcité, une citoyenneté arabe laïque qui partage la même histoire et peut-être le même destin. Bon, c'est un rêve complètement aujourd'hui à terre, bien entendu, mais c'est certain aujourd'hui que la France, par exemple, se retrouve un peu coincée. Parce que, si j'en crois en tout cas notre ministre, nous avons un allié stratégique dans la région, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, la France ne peut plus aujourd'hui parler avec l'Iran normalement ou avec la Syrie normalement. Moi, j'ai toujours cru qu'une ambassade était faite pour parler avec ses ennemis. Quand François voulait parler avec Angela, ils vont dîner à Strasbourg ou à Berlin. Quand ils veulent parler avec Barack, ils l'appellent au téléphone. Mais l'ambassade a été fermée. Donc on a coupé. Depuis 2005, la puissance de la France était jusque-là le seul pays au monde qui pouvait parler avec tout le monde. Quand l'Algérien voulait parler avec le Marocain, il passait par la France. L'Israélien, le Palestinien également. Quand le Libanais voulait reparler avec les Syriens, il passait par la France. Aujourd'hui, la France a choisi un camp contre l'autre. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne porte pas de jugement. Je dis simplement qu'on n'est plus la passerelle et qu'on n'est plus audible. Comment voulez-vous prétendre, tout d'abord, découvrir, au bout de 40 ans quand même, que le régime Assad est un régime de dictature? Ça rend optimiste quand même vis-à-vis des neurones de nos gouvernants quand même. Au bout de 40 ans, ils ont découvert. Il aurait suffi d'appeler un étudiant de Sciences Po à Saint-Joseph. En première année, il leur a expliqué pourquoi. Et Raleb disait très bien, les dictateurs n'ont aucun intérêt à faire évoluer les choses. Et ensuite, vouloir détruire les dictatures en étant alliés avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, comment voulez-vous être crédible et audible? Est-ce que j'ai répondu? Merci.
Sur la Syrie, vous pouvez en dire un peu plus aujourd'hui, ce grain de sable?
Oui. Je ne vois pas pourquoi je serais obligé de choisir entre la peste et le choléra. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent que le Syrien Assad protège les minorités, et particulièrement les chrétiens. Je ne le crois pas. Je crois qu'il les instrumentalise aussi. Et qu'il instrumentalise lui-même, ici, d'une minorité, toutes les autres minorités. Je ne crois pas que Daesh acceptera l'existence de non-musulmans sunnites facilement. Au contraire, ils essaieront de les obliger à se convertir ou alors de payer l'impôt de capitation, la jizya. Donc, pour le moment, ce qui me fait peur, c'est Daesh, bien entendu. Donc, je m'occupe de Daesh. Je n'ai aucune empathie pour le régime. Certains d'entre vous savent que j'ai été victime dans ma chair et dans mon sang des injonctions du régime Assad. Et je continue à le payer. Mais bon, aujourd'hui, il est certain qu'il est moins dangereux pour le moment. Mais il devra rendre compte du fait qu'il a quand même fait bombarder son peuple. Il devra rendre compte. On ne peut pas laisser passer ces choses-là. En aucun cas. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent Saddam Hussein. Je leur demande simplement de regarder l'histoire de l'Irak et de se rendre compte à quel point il est dangereux de regretter Saddam Hussein. Donc, je crois qu'il est temps aujourd'hui d'agir pour que des démocraties ou des républiques démocratiques puissent émerger. Comment ? Au lieu de vendre des armes, ça n'empêche pas d'ailleurs, mais bon, au lieu de chercher à faire uniquement des affaires, construisons des écoles, ça coûte moins cher déjà, construisons des lycées, construisons des universités, aidons les universités existantes, fabriquons des républicains. Et à ce moment-là, on pourra dire que, que les démocraties naissent. Comment voulez-vous que les démocraties naissent quand il n'y a pas de démocrates, quand ils sont en prison ou à l'extérieur, à l'exil? On a oublié simplement que, quoi qu'on dise, j'ai été le premier à me tromper parfois, le printemps arabe a existé. Il a duré quelques jours, mais il a existé. Mais nous, notre incohérence dans cette région, aujourd'hui nous voulons aider les Libyens à se refaire. Qui a détruit la Libye? Il ne faut quand même pas oublier que c'est notre chef d'État un peu réactif, légèrement agité, qui, sous la férule d'un ex-nouveau philosophe devenu mannequin depuis, a été en Libye. Et on a fait éclater la Libye. Et depuis 4 ans, il n'y a pas une journée qui se déroule sans qu'il y ait de morts en Libye. Et de blessés. On n'a pas fait le travail. Qu'on le veuille ou non, au Mali, on l'a fait le travail. On a reconstitué un État, un gouvernement. On a supervisé avec l'Union européenne, avec les Nations unies, les élections. Si nous voulons être aujourd'hui ce que nous prétendons être, c'est-à-dire détenteurs du droit à l'ingérence, qui n'est autre, disons-le quasiment, que du néocolonialisme. Je ne pense pas qu'une seule personne acceptera qu'un des pays du Sud exerce ce droit d'ingérence dans un pays du Nord. Imaginez-vous si le feu M. Kadhafi avait dit que les Corses étaient réprimés ou opprimés par la République jacobine parisienne et que les renvoyait des troupes pour aider les Corses à obtenir leur indépendance. Il y aurait eu un tollé, on aurait noyé la Libye sous les bombes, etc. Disons-le, si on veut être néocolonialiste, au moins, soyons-le dans la construction, dans l'objectivité, aidons ces gens-là à reconquérir, à se réapproprier leur citoyenneté, ce que nous ne sommes pas en train de faire.
Ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est cet emballement, enfin, je veux dire, de Daesh. Au fond, en très peu de temps,
quelque chose se constitue. 97 officiers généraux.
Mais ces dernières années...
De Saddam, qui sont restés, qui sont toujours là, qui sont chez eux, aidés par les tribus. Quand on parle de tribus, on est sur 4 pays, Arabie Saoudite, Koweït, Irak, Jordanie. Des tribus puissantes, des tribus de 2 millions et demi, 3 millions de personnes, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est la cellule première de la société dans ces pays-là. Ces tribus-là ont vu qu'ils étaient complètement marginalisés par le pouvoir chiite à Bagdad, et donc ont également lever de l'argent, acheter des armes, et c'est comme ça qu'on a vu cette... Alors, je ne trahirai pas de secret en disant que depuis un an, ces mêmes officiers généraux se sont adressés aux Occidentaux en disant « Aidez-nous, aidez-nous au moins à participer au gouvernement irakien, aidez-nous au moins à avoir un ou deux ministères régaliens et peut-être trois ou quatre ministères techniques, transport, poste, électricité, etc. » Il n'y a pas eu de réponse du côté occidental. Et ils ont dit « Daesh, nous en faisons notre affaire ». Et vu leur expérience avec Saddam, on a tendance à les croire. Donc là, là aussi, il y a, on a envoyé nos avions pour frapper en Irak, et non pas frapper en Syrie, mais on frappe en Irak. C'est bien, mais à quoi sert les frappes aériennes si on n'a pas de vision politique? Si l'un d'entre vous a entendu depuis 2, 3, 4 ans une vision politique européenne ou française, moi je suis preneur. Il n'y a pas de vision politique. Que veut-on faire?
Voilà, nous prenons encore deux, trois questions. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Oui, voilà. Madame.
Monsieur Sfer, j'ai une grande admiration pour vous. Vous étiez un peu plus ou moins élevé.
Vous parlez bien dans le micro.
Par les jésuites à Beyrouth. Donc, vous avez été très formé par les jésuites. Mais comment peut-on arrêter ce massacre de chrétiens en Irak et en Syrie et les coptes aussi orthodoxes? Comment on peut irradier ça, monsieur?
Alors, pardonnez-moi, tout d'abord, ne parlez pas des chrétiens, parce que nous sommes en train de les pointer du doigt, et quand les choses se calmeront, on les regardera avec méfiance comme une sorte d'excroissance du monde occidental. Parlons des minorités. Toutes les minorités. Le Proche-Orient est une mosaïque de minorités. Prenez la Syrie. Vous avez les Ismaéliens, les Turkmènes, les Tcherkesses, vous avez les Druzes, vous avez les Alaouites eux-mêmes au pouvoir, vous avez toutes les minorités, et bien entendu les chrétiens. Mais parmi les chrétiens, vous avez ceux qui sont séparés de Rome, ceux qui sont rattachés à Rome. Et parmi les chrétiens, vous avez ceux qui sont monophysites et ceux qui ne le sont plus, ou qui n'ont pas été. Vous avez les orthodoxes, les grecs, vous avez les grecs catholiques, les melkites. C'est aussi la richesse du Proche-Orient. Si on veut vraiment arrêter la guerre, il y a un moyen. Il y a plusieurs moyens, moi j'en ai un. On dit tous que les forces internationales des Nations Unies au Liban n'ont servi à rien. Or, il se trouve que la FINUL n'a de mandat qu'un mandat de 6 mois. Et depuis mars 1978, ce mandat ne s'est jamais arrêté. Quelle a été l'utilité de la FINUL? Son rôle n'était pas de s'opposer aux chars israéliens. Son rôle était d'empêcher que la guerre ne se transpose au sud du Liban. Et c'est une mission totalement réussie. Quels sont les seuls contingents qui sont reçus par l'habitant dans ce sud du Liban où il y a des chrétiens, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, quelques druzes, etc. C'est le contingent français, paradoxalement. Vous voulez arrêter la guerre en Syrie? Il y a 3 fronts. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, où il n'y aura pas de veto, envoie une force internationale des Nations Unies en Syrie avec des troupes chinoises, russes, américaines, françaises et anglaises. Qui osera tirer sur cette troupe-là? Bien entendu, les extrêmes. Mais si on lui donne le chapitre 7 des Nations Unies, c'est-à-dire le droit de riposter, ça vous permettra aussi de riposter à Daesh, à cet auto-proclamé État islamique. Il y a, à condition qu'il y ait une volonté politique, à condition que les Occidentaux en aient, pardonnez-moi d'être plutôt trivial, et en même temps, en se disant, on est là aussi pour assumer leurs responsabilités, puisque tous ces gens-là ont cru dans l'Occident.
Voilà, il y a encore place pour deux questions. De toute façon, nous n'allons pas au-delà de 21h. Je crois qu'en haut de la salle.
Voilà. Cette question s'adresse à M. Benchir. Nous avons eu la chance de vous écouter souvent et nous savons que vous êtes un représentant éminent de l'islam des Lumières. Vous êtes aussi président de la Conférence internationale des religions pour la paix. Quel est votre impact aujourd'hui sur les imams qui sont en France? Quel est l'impact de cette conférence internationale pour la paix sur l'évolution de cet islam des Lumières que nous attendons, comme vous?
Voilà,
comment merci. Vous la transmettez?
Merci, madame. Une deuxième et dernière question? Oui, devant. Oui, une seconde. Le micro arrive.
Merci. J'avais une question un peu dans le prolongement de celle de madame, à savoir qu'on entend maintenant, par exemple, l'université Al-Azhar qui va faire son aggiornamento, dit-elle. Alors, que pensez-vous de ces velléités de changement?
Voilà.
Bien. Chère madame, si vous permettez, je commence par la seconde question et puis je finirai avec la vôtre. Aussi étonnant que ça puisse l'être, j'ai été très, à titre personnel, réservé quant à l'initiative d'Al-Sisi d'aller dicter aux oulémas d'Al-Azhar ce qu'il faut faire. On est encore dans l'immixtion du politique dans des considérations religieuses. Ce n'est pas parce qu'il dit des choses qui nous plaisent qu'il faut accepter le principe. Il n'y a aucune raison pour que le recteur de l'université Al-Azhar, une des plus vieilles au monde, fondée en 969, il y a plus vieille qu'elle, c'est celle d'Al-Qarawi Nafes, qui est encore en exercice, fondée par une femme. Ce sont des choses qu'il faudrait connaître. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, eh bien, on a un président, un chef d'État, un homme politique, qui vient dire aux oulémas, pluriel générique des savants, des docteurs de la loi, eh bien, vous devriez faire ça, vous devriez faire ceci. On est dans la même situation en creux que du temps de Moubarak, qui dit, ah ben oui, mais si vous pouviez me trouver une fatwa, mot qui ne veut rien dire d'autre qu'une réponse à une situation inédite, ce n'est pas une condamnation à mort, comme certains faiseurs d'opinion le font croire à nos concitoyens, eh bien, donc le procédé en tant que tel est fort discutable, et c'est très euphémistique. Maintenant, est-ce qu'il y a une prise de conscience, un réveil auprès des oulémas et du recteur de l'université Al-Azhar? J'ose croire que oui. Simplement, et le simplement est de taille sur deux aspects. Si c'est qu'un aggiornamento au sein des clôtures dogmatiques et au sein des enfermements doctrinaux et avec les glaciations idéologiques qu'on n'arrive pas à dégeler, j'ai dû l'écrire dans un article, ce n'est qu'une cautérisation d'une jambe en bois. Et d'ailleurs, il y a eu quelques prises de parole de type « Ah, si on pouvait attraper ces criminels de Daesh, on va les crucifier. » Ben, on va répondre à la violence par la violence. On est encore dans une vision où il y a une quelconque efficacité à la violence. Et que ça soit dit par des hiérarques au sein même de l'université Al-Azhar, je trouve inquiétant. Mais au moins que le discours sur la bonté et la miséricorde puisse être encore entendu. Et on commence à entendre, et tant mieux, qu'on ne jauge le degré d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune du sort des minorités en son sein. Et en plus, dans un État démocratique, il n'y a pas de minorité ou de majorité, si ce n'est qu'au Parlement, on a une majorité, une opposition, puisque le citoyen est appréhendé in abstracto de ses appartenances confessionnelles quand il s'agit de vivre dans la cité. Il y aura beaucoup de choses à dire, chère madame, mais j'arrêterai là pour donner la réponse à notre ami. Merci pour le propos concernant ce que je dis. Alors, l'islam des Lumières, pardon, au risque de vous décevoir, je commence à trouver que le mot est galvaudé par certains faiseurs d'opinion aussi. L'idéal eût été qu'il n'y ait aucune adjonction à l'islam, ni modéré, ni de lumière, ni merveilleux, ni quoi que ce soit, parce que s'il y a lieu de qualifier, c'est plutôt le radicalisme, l'extrémisme, le terrorisme et la tradition religieuse islamique, à l'instar de ses deux sœurs au sein de la famille abrahamique, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, doivent conjuguer leurs efforts pour le bien de l'homme, quel qu'il soit, et sans ostracisme aucun pour ceux qui ne croient pas. Bon, je dis bien l'idéal eût été ceci. Alors, vous me dites quel est mon impact sur les imams. Aucun. Il ne faut pas pécher par excès de fausse modestie, mais je ne suis pas un clerc, je ne suis pas un imam moi-même. Je n'ai comme autorité que ma réflexion singulière. Je n'invente pas, j'ai appris des choses auprès de mon père qui, lui, fut recteur de la Grande Mosquée de Paris et qui, lui, n'avait pas inventé puisqu'il les a empruntées, si j'ose dire, ou apprises auprès de son maître, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, qui était requérant auprès du Conseil d'État pour que la loi dite de séparation du 9 décembre fût appliquée, y compris dans les départements d'outre-Méditerranée. Et le refus n'est pas venu du côté qu'on pense. C'est celui qui a fondé les scouts musulmans où le garçon était en bermuda et la fille était en jupe. Et s'il devait y avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou, pour l'un et pour l'autre. C'est lui qui a fondé des écoles mixtes du temps où l'autorité coloniale avait des écoles pour les garçons et des écoles pour les filles, cas aggravant pour les fondamentalistes. Les institutrices qui y enseignaient n'avaient aucun voile. Aggravant, elles avaient une sorte de petit diadème au-dessus de leur tête qui les rendait encore belles et attrayantes. Et parce qu'il y a aussi un enseignement par un état d'être et par l'esthétique. Bon, alors, j'exagère en disant aucun. S'il s'agit, et pardon, avec le respect absolu que j'ai pour la dignité humaine chez quiconque, s'il s'agit d'imams ignares, autoproclamés, annonnant quelques petits versets avec emphase pour avoir un ascendant moral sur des jeunes gens avides de quoi que ce soit d'ailleurs et surtout de spiritualité, ben à cela je parlerai chinois, bien entendu. En revanche, s'il y en a d'autres qui acceptent que nous dialoguions, que nous parlions, il y a quelques, ce que je dis, je ne l'impose absolument pas. Je fais même mienne cette belle parole de Shafi'i, mort en 820, maître éponyme d'une des quatre grandes écoles juridiques. D'ailleurs, le simple fait d'avoir quatre montre que c'est une construction humaine. Ça aurait pu être trois comme ça aurait pu être cinq. Ce n'est pas garanti par le divin. Les écoles juridiques au nombre de quatre, ce n'est pas descendu du ciel comme ça. C'est une construction humaine. Eh bien, l'un d'eux, lui, il est mort au tournant, au premier quart du 9e siècle, en 820. Il disait: mon avis, je le crois juste, mais il peut être entaché d'erreur. Et l'avis de mon contradicteur, par construction, je le pense faux, mais il a sa part de vérité. Bien, avec cette éthique du désaccord, de la discussion, du débat, de la disputatio, chère à nos auteurs latins, ancêtres de la soutenance de thèse, bien, quelques dialogues, y compris chez nous, dans notre pays. J'ai dû même apprendre à dire meuf, keuf, rebeu, feuge, etc., pour que des jeunes gens, quand il m'arrive de me déplacer dans ces quartiers dits difficiles, parce qu'il y en a d'autres qui sauvent les marchés de hurling le marché des hurlings à Deauville, on ne dit pas d'eux qui sont inintégrables, que ce sont des islamo-délinquants ou des islamo-fascistes. Mais les autres, c'est vrai qu'il faut aller les voir, leur parler, être prêt, parce qu'il y a toujours cette sollicitude et cette prise en compte de l'intérêt d'autrui chez quiconque. Et surtout quand on a la faiblesse de croire qu'ils sont dévoyés. Donc il y a lieu de le dire pour éviter cette étiquette d'un sorbonnard ou d'un salonnard ou d'un mondain. Au contraire, il faut aller sur le terrain et c'est ce relais-là qu'il faut trouver. Alors maintenant, la Conférence mondiale des religions pour la paix, hélas, nous sommes arrivés, enfin il reste encore pour 21h, il reste le temps de dire un mot sur la conférence. Moi, si je la préside, c'est parce que nos amis m'ont élu et j'ai accepté d'être candidat. Parce qu'il se trouve que je n'avais de la présidence longtemps que le vice et à défaut d'avoir la vertu, j'ai maintenant la charge et la responsabilité. Mais c'est pas parce que je suis musulman, c'est parce que très tôt, J'ai été dans cette mouvance du dialogue, de la rencontre, et je faisais mienne la parole de Hans Küng quand il disait « Il ne peut y avoir de paix véritable entre les nations s'il n'y a pas une paix juste, durable, véritable sur un substratum de justice entre les adeptes des différentes traditions religieuses. » Et l'homme croyant que je suis, et l'homme de foi que je suis, était touché par ces paroles-là, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au sein, j'allais dire, de ce machin au sens gaullien du terme, mais en tout cas de cette instance, dont la proto-histoire remonte déjà au Parlement des religions du monde en 1893, lorsque le Swami Vivekananda, auquel Romain Rolland a consacré une œuvre considérable, a eu cette idée de fonder le Parlement des religions du monde lors de l'exposition universelle de Chicago. Et puis, bon, les choses ont fait en sorte que nous faisons de ce que nous appelons la diplomatie parallèle, parce qu'on va in situ et dire aux rabbins, aux évêques, aux imams, aux mouftis, eh bien, à défaut de tendre l'autre joue ou de rendre le bien pour le mal, le verset 34 de la sourate 41, eh bien, au moins faites en sorte qu'il n'y ait pas une escalade dans la violence, et que vous purifiez vos cœurs de toutes les rancœurs, et que vous assainissiez vos âmes de l'animosité infâme.
Antoine Sfeir, quelques mots.
Il est très difficile de parler après lui. On se laisse bercer. Je ne suis pas d'accord avec Grela Bencher quand il dit que l'intrusion du politique dans les affaires des oulémas ou de Lazare ou d'autres universités théologiques est quelque chose d'inquiétant. On oublie quand même qu'en islam, c'est le politique qui nomme les dignitaires. On oublie, je parle de l'islam sunnite, on oublie quand même qu'en islam, mais si.
Non.
Et c'était bien le rêve de Morsi de vouloir démettre le recteur de Lazare, qui est lui-même ce que tu as appelé un sorbonnard, et Ahmed Tayyib. Et on oublie simplement qu'aujourd'hui, quand on lit le Coran, il est dit également qu'il faut obéir à ceux qui dirigent la cité et le pays. Cela dit, mais oui.
Mais c'est même un argument à charge. Selon ce verset-là, il y a trois choses. D'abord, je ne vois pas pourquoi il faut arrimer la déconnexion du politique d'avec le religieux sur une référence scripturaire. Déjà, du point de vue purement épistémologique. Deuxièmement. À supposer par extraordinaire qu'il faille le faire, il y a deux passages dans le Coran. C'est vrai qu'il n'y a pas de denier de César, mais on peut dire pourquoi voudrait-on que Dieu parle à César au 7e siècle en Arabie. Et même, je le dis avec beaucoup de déférence, de respect et d'amitié, moi j'étais surpris de voir qu'on avait brandi le denier de César. Il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, s'il fallait brandir quelque chose, c'est plutôt peut-être mon royaume n'est pas de ce monde. Et même le denier de César ne nous avait pas prémunis de la querelle des investitures, de la doctrine des deux glaives, de Monseigneur Dupont-Loup, de Monseigneur Bourdaloue avant lui, du maître, de l'aigle de Maubossuet et de l'encyclique Vehementor Nos de 1906. Le début d'assentiment ne commençait à venir qu'en 1924 avec l'encyclique Maximum Gravissimum. Et ce n'est que grâce au travail considérable, admirable, de théologiens de renom comme Yves Congar, Karl Rahner ou les autres, Paul Tillich, Karl Barth ou Urs von Balthasar, qu'on a eu cette assise intellectuelle à l'intérêt qu'il y a à cette déconnexion. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, ne renonce au pouvoir temporel motu proprio, et aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même l'islam, ne résiste à la laïcité quand elle est ingurgitée, voulue, théorisée, incarnée par ses intellectuels et ses théologiens. Et donc les deux versets coraniques qu'on brandit comme ça, c'est le verset 42 de la sourate, le verset 38 de la sourate 42, dite la sourate de la délibération. Et leurs affaires sont objets de délibération entre eux, ou leurs affaires sont objets de consultation entre eux. Et on nous a dit, ah ben vous voyez bien qu'il y a la démocratie, et puis la discussion fondée par le Coran. Mais l'autre verset auquel faisait référence Antoine, non sans raison, dit ceci. « Oh, vous qui avez cru, vous devez obéir, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous. » Mais on ne se pose jamais la question qu'il y a une concomitance et une simultanéité à ceux à qui on doit obéissance. On doit obéissance à Dieu et aux prophètes, et en même temps aux détenteurs de l'ordre parmi vous. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, y compris à Médine et avec la révélation, ben on a deux ordres. On a l'ordre du prophète, bien sûr, si on est croyant et on aime Dieu, etc., on lui obéit, on obéit à son émissaire sur terre, et on obéit aussi aux détenteurs de l'ordre parmi vous. Donc il y a là une séparation des deux ordres. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'un texte, on peut toujours le plier selon son désir. Et c'est pour ça que j'appelle à titre personnel à ce que le mécanisme même de déconnexion soit a-religieux et sur des paramètres extra-religieux. Il n'y a aucune raison de leur donner la caution de la référence scripturaire.
Ce que je viens d'entendre, je le...
Vous applaudirez après. Merci.
Ce que je viens d'entendre répond à madame qui pensait quel impact avaient les paroles de Ghaleb Benchir. C'est quelqu'un qui a toujours eu le courage à la fois d'aller à contre-courant, mais également d'être, même s'il n'aime pas ce terme, révolutionnaire. Et c'est bien ça qui inquiète les fameux imams autoproclamés. Quand il va sur le terrain, quand il va parfois sur d'autres terrains, non seulement on l'écoute, mais on se pose la question que vous posez, quel est l'impact qu'il peut avoir auprès des jeunes? Je peux témoigner d'une seule chose à laquelle moi-même j'ai assisté, c'est que lorsque des jeunes, aujourd'hui, quels qu'ils soient, des banlieusards ou des citadins, écoutent ce genre de propos, ils ont l'impression de vivre non pas un islam des Lumières, comme il l'a dit, c'est un peu galvaudé, mais un islam du XXIe siècle, c'est tout.
Voilà, un très grand merci. Voilà, c'est une ovation. Un très grand merci Antoine Sfeir et Ghaleb Benchir pour, je crois, la qualité, la profondeur, voilà, que vous avez apporté ce soir et le climat dans lequel a pu se dérouler cet échange. Voilà, bonsoir à vous. Peut-être rendez-vous le 7 avril prochain pour le prochain mardi d'éthique publique, qui portera sur un sujet très différent. La planète pourra-t-elle satisfaire tous nos besoins, énergie, alimentation? Un sujet important aussi. À la sortie de l'auditorium et des salles, vous trouvez des urnes ou des paniers pour contribuer, mais on ne m'entend plus, aux frais d'organisation de la soirée. Bonsoir.